quand on parle de seconde main, ce qui est formidable, c'est que les gens tout de suite comprennent que ça a un impact écologique et tout de suite comprennent qu'en plus, ils peuvent y gagner quelque chose.
Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, au micro de La Relève, je reçois Edwige Michaud, 28 ans, cofondatrice de Barouders. Barouders est une marketplace de seconde main qui a été lancée en septembre dernier à Annecy et qui est spécialisée dans les articles de sport en plein air. Concilier sport et engagement, c'est la belle ambition de la marque que nous allons découvrir aujourd'hui. Salut Edwige.
Bonjour Thibault, merci de me recevoir.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? T'as grandi à Annecy ou t'es parisienne?
Eh bien écoute, moi j'ai grandi entre l'Angleterre et la France. Donc mes parents étaient entrepreneurs, ils ont créé une marque de parfum qui s'appelle Parfum de Nicolaï. Et du coup, très vite pour l'entreprise, ils ont été amenés à l'ouvrir en Angleterre. Et donc ça m'a donné vraiment une culture assez ouverte d'esprit, à la fois anglo-saxonne, à la fois française.
Ouais.
Et je pense que ça m'a bien forgé dans ma manière d'être, puisque d'ailleurs les enfants sont très amenés à faire du sport. Les filles et les garçons sont mélangés, donc je faisais beaucoup de foot, par exemple, quand j'étais petite.
Tu as grandi dans quel coin en Angleterre?
À Londres. Mais par contre, l'école finit à 15h et place au sport à partir de 15h. Donc c'était assez sympathique quand on a un enfant. Et j'ai toujours gardé cet ADN très sportif. Et quand je suis rentrée, donc on est rentrée à Paris.
À quel âge?
J'avais peut-être 10 ans, donc c'était vraiment assez jeune. Mais finalement, quand on passe les plus jeunes années dans un pays, on est assez forgé à la culture. Et voilà, donc ça a toujours été important pour moi, après l'équilibre sport et travail.
Donc, c'est ton papa qui a monté Nicolaï ou deux parents travaillaient dans la société?
En fait, mes deux parents travaillaient ensemble. L'histoire, c'est que donc, ma mère allait avoir son troisième enfant. Lui trouvait que les rythmes de job, à l'époque en tout cas, étaient très chargés pour les femmes. Et elle n'avait peut-être pas autant de flexibilité qu'elle pouvait. Et donc, il lui a dit, mais en fait, tu es très douée en création de parfums. Je pense que tu as largement de quoi créer ta propre marque. Et je vais le faire pour toi. Je vais faire tout ce qui est opérationnel et toi, tu créeras le parfum. Donc, c'est un peu une belle histoire et qui s'est bien passé puisque l'entreprise est toujours 100% familiale et on a une quinzaine de points de vente et beaucoup de revendeurs à travers le monde.
Et lui, il était dans quel domaine ?
Dans l'entrepreneuriat au départ, il avait des boutiques d'optique, rien à voir avec le parfum, mais par contre, l'ADN entrepreneurial était là et finalement, quand on l'a, on peut faire un peu de tout.
Et donc finalement, entreprendre en couple, c'est quelque chose que tu reproduis ?
Bah exactement, en fait, c'est un modèle que j'ai toujours suivi. En tout cas, je sais que c'est possible. Ça permet aussi un bon équilibre entre vie pro et vie perso. Et on travaille avec des gens de confiance avec qui on sait avancer dans la même direction.
Non, je dis ça parce que ton cofondateur, Geoffroy, c'est aussi... Alors, je ne sais pas si c'est ton mari ou ton conjoint.
Oui, exactement. En fait, c'est mon mari. Et on a eu l'idée ensemble. C'est même lui qui m'a encouragée à démissionner pour créer une boîte à impact. Je lui en parlais beaucoup. Lui aussi était très intéressé et il avait envie de s'impliquer. Et comme quoi, à deux, on est plus forts. Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'engagerait pas à deux? On est hyper complémentaires. Il y a tellement de choses à faire avec le réchauffement climatique qui arrive à grands pas. Quoi qu'on fasse, on va trouver une solution et un bon business parce que c'est l'avenir.
Ok, donc tu rentres de Londres, donc tu reprends une vie française. Qu'est-ce que tu fais comme études?
Alors, assez classique, hein, finalement, j'ai fait mon collège-lycée dans un lycée en France. Et très vite, j'ai voulu reprendre des études en Angleterre. J'ai fait de l'économie. Ce qu'il faut noter en Angleterre, c'est que l'économie est assez poussée. Il faut avoir fait SP maths et avoir un certain niveau en mathématiques. Et je pense que l'économie, c'est vraiment important de comprendre le monde qui nous entoure. Et pas seulement au niveau micro, c'est-à-dire pas seulement au niveau de ce qui se passe autour de nous, dans notre classe, dans notre école ou dans notre région, mais vraiment de comprendre le monde tel qu'il est. Et pendant ces 3 ans, j'ai vraiment été très intéressée, par exemple, sur la crise économique de 2008, de comprendre comment tout pouvait s'effondrer. Et au final, quand on regarde le réchauffement climatique, il y a beaucoup de parallèles à faire et beaucoup de similitudes dans ce côté euphorie où surtout on ne veut pas regarder finalement la réalité en face et on se dit non, mais je vais le remettre à demain. Si ça se trouve, ça ira mieux. Mais en fait, malheureusement, les chiffres sont là. Le rapport de la GIEC a été sorti. À chaque fois, c'est la même chose. On sait que ça va arriver. Et il y a beaucoup de parallèles. Et je me suis dit, mais c'est fascinant ce qui se passe parce que c'est vraiment un travail à la fois économique économique, sociologique, et qui va demander beaucoup d'ingéniosité, d'innovation pour faire face.
C'est le Don't Look Up ?
Exactement, c'est un de mes films préférés, j'ai trouvé qu'il était très parlant. Et donc voilà, j'ai fait mes études en Angleterre. Ensuite, ce que j'ai remarqué, donc j'avais naïvement postulé en cabinet de conseil dans les bons cabinets. Et en fait, j'ai réalisé en France, j'ai aussi réalisé que si on n'avait pas un diplôme français, ça pouvait gêner dans la suite de la carrière. Quand les gens recevaient mon CV, ils connaissaient peut-être moins les universités en Angleterre. Donc j'ai décidé de tenter le parallèle avec les grandes écoles et j'ai rejoint HEC en grande école.
Et après ?
Et après, en fait, donc déjà pendant les 3 ans, j'ai fait du coup mes fameux stages que je voulais faire, donc en conseil et en banque d'investissement. En fait, comme je viens d'une famille d'entrepreneurs, je pense que d'avoir certaines bases de méthode, c'est vraiment important. Ça permet de bien exécuter plus tard. Et donc, à la fin de mes études, je me suis dit, mais il y a l'entreprise familiale qui se développe très fortement. J'aime beaucoup le parfum. Donc, J'ai un peu dévié du conseil et de la banque pour aller faire mes stages de fin d'études et mon premier emploi chez Clarins. Et donc, j'ai pu avoir une expérience du marketing, notamment opérationnel, chez Clarins en tant que premier emploi.
Et alors, qu'est-ce qui fait que tu ne rejoins pas la maison familiale ?
Justement, ce petit sujet du réchauffement climatique a commencé de plus en plus à me venir à l'esprit. Je me disais, mais... est-ce que finalement, même si l'entreprise familiale est vraiment, je pense que le luxe a toute sa place dans un monde de demain, puisqu'on aura de moins en moins de matières premières, que les prix seront plus chers, et je pense que les gens vont aller un peu plus vers des produits de luxe, voire les acheter en seconde main ou les louer, plutôt que d'aller vers du mass market. Et donc, en fait, voilà, pourquoi pas rejoindre le parfum ? C'est que même si le luxe appartient, je pense que ce n'était pas directement lié à l'impact écologique. Et je me suis dit, il y a tellement peu de temps, en fait, quand on lit les rapports, quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on a vraiment 10 ans, mais si ce n'est moins, pour changer les choses. Et donc, je me suis dit, il faut que je m'y mette à plein temps, à 100%.
Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, quel est le déclic et à quel moment tu démissionnes de Clarins ?
J'ai eu la chance d'être directrice marketing en Irlande. Donc j'ai été envoyée à 24 ans pour remplacer un congé maternité. Donc j'ai eu une expérience formidable de 10 mois là-bas, où j'ai pu manager une équipe, etc. J'ai vraiment adoré le job, l'entreprise, etc. Par contre, je prenais l'avion quand même toutes les 2 semaines pour rentrer, parce que j'étais en train de préparer un mariage, justement. Et je trouvais...
Pour avoir fait de l'audit interne, je me souviens, il y a un avion à 5h45.
Exactement.
C'est toujours le même ou pas ?
C'est le même.
Il pique.
Et puis finalement, on se dit, j'ai vraiment l'impression d'être à Amsterdam. Je me dis, mais on nous forme à faire des bonnes études pour être des bons exécutants. C'est génial. Mais en fait, c'est quoi le sens de tout ça ? C'est quoi, quand on prend un pas de recul, quand on pense justement à l'économie, à la macroéconomie, je suis un petit pion qui se déplace de Dublin à Paris, qui pollue quand même pas mal. Je vois à côté de ça, mon intelligence, ou en tout cas la lecture de ces papiers qui sont intelligents, me fait remarquer que ça va pas dans le bon sens. Et on se retrouve confiné, donc à la fin de cette expérience professionnelle. Et le confinement, pour moi, évidemment, je crois comme beaucoup d'entrepreneurs, a été l'élément déclencheur où c'est Geoffroy qui m'a dit mais regarde, qu'est-ce qu'on attend ? Lui aussi était en banque d'investissement. Pareil, à être un très bon hamster dans une très bonne roue. Et il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne démissionnerait pas tout de suite ? Et un matin, il s'est réveillé, il m'a dit, bon, j'ai démissionné. Et toi alors ? Quand est-ce que tu vas ?
Qu'est-ce qu'il faisait ?
Il était chez Rothschild, il était en banque d'investissement. Avant, il avait fait du conseil en financement pour des startups, des jeunes entreprises. Il était passionné plus par l'entreprise. Et un jour, il m'a dit, tu sais quoi ? Ok, I jumped, what about you ? Et alors, j'ai été pris à mes propres mots et j'ai démissionné aussi, en me disant, mais au final, c'est en...
Pas de rupture conventionnelle.
Et pas de rupture conventionnelle. Non, c'était pas prévu. J'étais en bon terme avec mon équipe que j'aimais beaucoup chez Clarins et j'avais aucune envie de me battre férocement pour une rupture co. Mais par contre,
C'était notable, hein, vous avez fait partie des rares entrepreneurs que j'ai croisés ces dernières années qui n'avaient pas bénéficié de la première levée de fonds, qui est le chômage et la rupture conventionnelle.
Oui, c'est vrai, mais on avait mis un peu d'argent de côté. Donc finalement, quand on est que deux, justement, on n'a pas besoin de tant d'argent que ça pour vivre. Et surtout, la volonté d'avoir de l'impact, je veux dire, ça nous porte et ça...
Alors, vous êtes deux, mais bientôt trois ?
Oui, exactement. Exactement, ça, c'est un challenge aussi d'entrepreneuriat. Je pense que de savoir concilier vie de famille et vie entrepreneuriale, ça fait partie des choses. Et ce qui est vraiment important, c'est de montrer que ça n'impacte en rien l'ambition du business, qui est très grande. Et on arrive justement à concilier les deux, d'autant plus quand on fait équipe.
Vous êtes des rôles modèles, en fait, des entrepreneuses qui faites des bébés. C'est important, ça, de dire que ça change rien, en fait.
Bah, exactement. Je pense qu'il faut en avoir conscience. C'est un challenge comme un autre. Je ne vais pas dire que ça ne change rien la vie quotidienne. Je pense qu'il faut redoubler d'ambition en se disant, au contraire, je veux prouver que j'arrive à performer encore plus ou encore mieux. Et c'est le cas. Et après, il faut être vraiment bien entouré. Moi, je suis quand même assez fière que depuis la création en septembre, on a réussi à faire x2 tous les mois. On était 2 en septembre, on est maintenant 15. Je pense qu'il faut prouver qu'on arrive à concilier les deux.
Et alors, le sport, pourquoi le sport ?
Alors, le sport, tout simplement parce que déjà, Geoffroy et moi sommes passionnés de sport.
Ouais. Qu'est-ce que tu faisais, toi, comme sport ? Enfin, qu'est-ce que tu fais comme sport ?
Tout ce qu'il y avait de plus casse-cou. Donc, kitesurf, alpinisme, ski de rando. J'adorais tout ce qui est être de la nature, se surpasser. Notre slogan chez Baroudeur, c'est « Libère ton potentiel », c'est pour une raison. Libérer son potentiel à travers des événements sportifs. Et en fait, ce qu'on a surtout remarqué, donc on avait itéré, une fois qu'on a démissionné, on a itéré sur 2-3 idées. Et ce qu'on a remarqué, c'est si on n'allie pas un avantage économique avec un avantage écologique, on a beaucoup plus de mal à avoir de l'impact. Je m'explique. C'est que dans la finance verte, par exemple, il y a énormément de choses à faire pour encourager les gens à mieux dépenser ou mieux épargner leur argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui propose d'économiser de l'argent en le faisant. C'est souvent un service, il faut le connaître, il faut débourser une certaine somme tous les mois pour montrer un réel engagement. Et ça, ça marche pour les gens très éduqués, mais ça ne marche pas pour le reste de la population qui n'a pas la chance d'être au courant de ces sujets. Et donc, en fait, quand on parle de seconde main, ce qui est formidable, c'est que les gens tout de suite comprennent que ça a un impact écologique et tout de suite comprennent qu'en plus, ils peuvent y gagner quelque chose. Donc, ça veut dire que du côté vendeur, il peut gagner quelque chose en vendant ses équipements et du côté acheteur, il peut gagner quelque chose en achetant moins cher.
Finalement, par rapport au Bon Coin, c'est quoi la différence ?
Bah, finalement, donc, nous, la réalisation de l'idée est venue quand justement, chercher une veste Gore-Tex, on voulait s'équiper pour un mont en alpinisme. Je voulais l'acheter seconde main et du coup, je me suis retrouvée déjà à ne pas savoir où aller. Donc, réflexe de base, on va sur Le Bon Coin et Vinted. Sur Le Bon Coin, je me suis pris 3 pubs je me suis retrouvée entre des doudounes de moto. Donc, en fait, les filtres n'étaient pas du tout appropriés. Et sur Vinted, un petit peu pareil. Et surtout, aucune communauté. Donc, moi, d'ailleurs, en tant que fille, avant de rencontrer Geoffroy qui partageait la même passion, souvent, je me disais, mais je cherche des filles ou des amis avec qui faire de l'alpinisme. Sauf que j'en connaissais pas 1000. Et je me disais, mais où est-ce que je peux trouver, finalement, une communauté où les gens peuvent s'échanger des bons conseils, des lieux pour aller et même se rencontrer. Et finalement, grâce à Baroudeurs, c'est un univers qui est entièrement dédié, qui permet d'acheter des équipements seconde main, mais dans un univers qui est quand même totalement dédié pour les passionnés. Donc finalement, une fois qu'on goûte à Baroudeurs, avec tous les services, et ça on pourrait y revenir, qu'on offre, les gens ont du mal à retourner sur Le Bon Coin.
Je me suis fait voler mon paddle, est-ce que je peux en trouver
Tu peux en trouver plus d'un.
Ouais, plus d'un.
Tu peux en trouver plus d'un. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on fait tous les sports outdoor, donc ça va du nautique à la montagne. Et aussi, nous, chez Baroudeurs, on ne deviendra jamais le leader mondial du sport de seconde main si on ne fait que copier un site de petites annonces. Donc, on est venu apporter une série de garanties qui permet au vendeur de vouloir vendre chez nous et à l'acheteur de vouloir acheter chez nous. Par exemple, le vendeur, on lui a proposé des services de dépôt-vente, de collecte à domicile pour les équipements volumineux, un vélo, des paddles justement. Et on lui propose aussi d'être conseillé sur le juste prix. Et on va même jusqu'à, si jamais il a un paddle qui est déchiré, on lui propose le bon réparateur pour justement le revaloriser et le revendre à un meilleur prix. Aujourd'hui, on trouve des paddles déchirés à 10 euros ou 20 euros sur Le Bon Coin et les gens ne savent même pas quoi en faire et d'ailleurs ça se vend très mal. Alors que nous, on propose de réévaluer le paddle parce qu'il aura été réparé, il se vendra beaucoup plus cher. Et du côté acheteur, finalement, quand on y réfléchit, de se retrouver sur un site où il y a une communauté de plus de 30 000 personnes, où il y a plus de 50 000 équipements disponibles et c'est tous des meilleures marques, c'est 250 des meilleures marques qu'on peut trouver sur le marché et tous les produits sont inspectés, certifiés et garantis. La pénibilité est vraiment réduite, c'est-à-dire qu'il va retrouver un colis en bon état auprès d'une communauté de passionnés. Il pourra même échanger avec le vendeur ou avec nos experts qui conseillent sur le juste équipement acheté. Et pour ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce qui nous distingue et je pense que c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de consommateurs qui reviennent chaque semaine.
Du coup, le modèle, c'est un modèle B2C ?
C'est un modèle C2C. On est d'ailleurs en plein développement de l'app mobile. On a un site web qui permet de vendre en 3 clics ses équipements et aux acheteurs de l'acheter. Peut-être la particularité, je dis toujours qu'on est entre un back market et un vestiaire collectif, c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec des professionnels qui sont des réparateurs professionnels. Donc, on peut travailler avec des réparateurs de vélos, de parapentes et qui auront, eux, justement, inspecté, certifié, réparé l'aile et ils la remettent en vente sur leur compte professionnel Baroudeurs. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir autant d'équipements aussi rapidement.
Vous avez combien d'objets là ?
50 000. Et c'est une belle croissance. On avait commencé avec 10 000 sur le site le premier jour grâce à un petit peu de travail justement de fond en B2B. Et aujourd'hui, on a à peu près 50% d'équipements qui viennent des particuliers et 50% qui viennent des professionnels. Et on a aussi fait des partenariats avec des marques comme Millet, on est en discussion avec Odlo, avec Garmin, Columbia. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des flux de qualité.
Donc là, sur du partenariat avec des marques, ils ont des boutiques à leur nom et ils revendent du matériel d'occasion.
Exactement, exactement. En fait, on va pouvoir retrouver la boutique dédiée de Millet sur Barouders, où il y a des équipements certifiés Millet. On le fait par vente temporaire en général. On met en avant la marque et on dit, regardez, tous ces équipements seconde main sont à vendre.
Vous avez levé des fonds assez vite après le démarrage ?
En fait, on s'est retrouvé avec Geoffroy, qui était ingénieur, qui avait fait tout le site, mais ce n'était pas non plus un CTO de formation. Et donc, au bout de 2 semaines, j'ai dit, c'est super notre site, mais en fait, on va être super lent, on ne va pas y arriver si on ne lève pas quelques fonds. Donc, au bout de 2 semaines...
Comment il l'a pris ?
Je crois qu'il était d'accord, parce qu'il voyait bien que ce n'était pas facile tous les jours. Je crois que je lui ai économisé quelques nuits blanches. Et du coup, j'ai changé un peu de casquette. Donc, je faisais beaucoup de marketing avant, de RP. Et j'ai vraiment tout mis sur pause pendant quelques semaines. En une semaine, construire un bon deck et après aller lever de l'argent. La bonne nouvelle, c'est que dès qu'on a envoyé notre deck à une dizaine d'investisseurs, donc vraiment qu'une dizaine, ça a fait ricocher. Le deck a été partagé de main en main et en 48 heures, on a eu plus de 2 millions d'euros de marque d'investissement, ce qui était vraiment important. Alors forcément, on était capé là par la valorisation, donc on ne voulait pas accepter tout cet argent et perdre la majorité de l'entreprise, et bien évidemment. Mais tous les investisseurs que j'ai eu plus de 100 personnes au téléphone, j'ai mal malheureusement, eu aucune femme avec qui j'ai pu être mise en contact. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que j'ai vraiment de la chance pour nos investisseurs. C'est vraiment des gens bienveillants, extrêmement doués dans ce qu'ils font et qui m'ont jamais mis aucune pression. Et ça, c'est très important. Mais j'aurais bien aimé quand même avoir une ou deux femmes.
Donc, vous avez un peu plus d'un million d'euros ?
Oui, c'est ça, 1,3 million.
Auprès de Business Angel, tu peux nous donner quelques noms ?
Oui, bien sûr. Alors, on a par exemple le fondateur de Mero, donc Thomas Rebaud. On a aussi le fondateur de My Jolly Candle, Samuel Guez, et le fondateur de Label Vie, qui est un site e-commerce de nourriture, Paul Lay. Et en fait, ce qui a été génial, c'est de s'entourer de personnes aussi expertes dans l'entrepreneuriat et dans leur domaine.
Il va servir à quoi cet argent ?
Déjà, il est en train de servir activement à développer la boîte. On a recruté le CTO de Phoenix, une application d'anti-gaspillage, qui avait un profil très haut placé avant chez Vestiaire Collectif dans l'équipe tech. Il était passé par VP, Rue du Commerce, et on s'est dit, mais avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe qui connaît par cœur les marketplaces et qui aura la seniorité pour savoir grandir avec la boîte, c'est game changer. Pareil pour le profil de l'acquisition. Pour nous, l'acquisition, c'est crucial. Bien gérer les ads, faire du precision marketing. Et donc, on a recruté une des personnes qui avait géré le plus gros portefeuille chez Papernest. Ça a été vraiment le focus des mois qui ont suivi ou des semaines qui ont suivi la levée de fonds. C'est vraiment de bâtir l'équipe avec qui on se dit, avec eux, on va aller très loin.
Ce qui est compliqué dans les marketplaces, c'est qu'il faut à la fois avoir des objets et puis trouver une communauté. Comment est-ce que tu as trouvé tes 10 000 premiers objets et ta communauté du démarrage ?
Ouais. Déjà, je pense que dans le sport, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que le plus on a d'équipements sur le site, le plus on vend. La demande n'est clairement pas un problème. Et on sent qu'il y a des gens qui reviennent finalement plusieurs fois par semaine, alors que c'était une des questions, c'est la récurrence des utilisateurs. Et en fait, une fois que les gens sont fans, ils achètent des pièces détachées pour tous les sports, etc. On avait vraiment cette volonté de construire une communauté. On aimerait vraiment que les gens échangent sur le site, et c'est un peu le cas, ça commence les gens commencent à se rencontrer et du coup avoir un peu de la stickiness et vouloir revenir sur le site pour revivre cette expérience.
Vous avez eu des belles histoires ?
On n'a pas d'histoire de mariage ou autre, mais en tout cas, on a des gens qui sont partis faire de la montagne ensemble grâce à Barouders, puisqu'en échangeant sur l'état d'un article ou est-ce que je peux l'acheter ou l'échanger en main propre, ils se sont rencontrés. Et du coup, pour créer cette communauté et même sensibiliser les gens à vendre sur Barouders, on avait vraiment besoin de faire du bruit. Donc dès le début, moi, j'ai ouvert une page Instagram et j'ai sollicité quelques sportifs pour m'aider à faire accroître la notoriété. Donc je suis arrivée vraiment, on était... Peanuts, on n'était que deux, il y avait une toute petite page avec 50 followers, je ne sais plus. Et je disais, mais est-ce qu'on veut changer le monde ? Est-ce que vous voulez faire ça avec nous ? Il y a tellement de choses à faire, regardez dans le sport, on peut vraiment changer radicalement la manière dont on consomme. Est-ce que ça vous dit de m'aider ? Donc avec un discours le plus convaincant possible. Et au final, on a obtenu le soutien de Guirec Soudé, par exemple, un coureur du Vendée Globe, de Mathieu Tordeur, un aventurier, de Mathieu Vitvet aussi, éco-aventurier, et surtout de Yann Arthus-Bertrand qui nous a pas mal aidés.
C'est sportif ? C'est quoi le deal avec eux ?
Ils me prêtent leur image. C'est-à-dire qu'ils ont tous accepté de faire une vidéo, donc sous forme d'un peu interview rigolote. Et on a, grâce à ça, pu les publier sur nos réseaux. Et ça nous a tout de suite donné une crédibilité, une notoriété assez rapidement. Au début, ça a été crucial, en fait. Sans eux, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à fédérer une communauté. Et ensuite, du côté des équipements, on s'est focalisé sur deux axes. Premièrement, la communauté. Ça a fait qu'il y a des particuliers qui tout de suite ont mis des équipements sur le site. Et surtout, on a été démarché des professionnels. Donc, c'était des professionnels de la seconde main. Un acteur qui par exemple, est basé à Annecy, qui est spécialisé dans le ski de seconde main. Donc, pareil, il rachète, il répare, il revend des skis de très, très bonne qualité, des meilleures marques. Et grâce à ça, on a eu tout de suite plusieurs milliers d'équipements sur le site.
Aujourd'hui, c'est quoi votre best-seller, enfin les produits best-seller, et peut-être justement un fail que tu n'aurais pas imaginé?
Alors le fail, je ne sais pas, parce qu'on apprend tous les jours, donc je pense que des fails, on en fait vraiment tout le temps, il n'y en a pas un notable.
Il n'y a pas un produit que tu ne peux pas vendre sur
Non, bah non, parce que justement, les gens sont tellement en train de rechercher différentes choses. Après, je pense qu'il faut être intelligent, il faut regarder qu'est-ce qui est facilement scalable. Donc par exemple, le vélo, l'industrie du vélo est énorme, donc finalement, se focaliser dessus, c'est quelque chose qui est très important, et ça marche très bien sur le site. Et aussi, c'est des paniers d'achat qui sont bien supérieurs à des t-shirts de running.
Pourquoi un bureau à Annecy ?
Parce que, en fait, le monde du sport outdoor est vraiment là-bas. C'est-à-dire que si tu voulais monter une marque de luxe, par exemple, est-ce que tu penses que tu aurais autant d'impact si tu avais marqué en dessous de ta marque Made in Brest ? Peut-être pas. Alors que quand tu marques Made in Paris, ça fait déjà rêver pas mal de gens, notamment à l'export.
Parce que les gens ne connaissent pas Brest ?
Parce que les gens, en tout cas, n'ont pas la référence de Brest pour le luxe. C'est un tort, d'ailleurs. Mais par contre, donc dans le monde du sport, en fait, toutes les marques outdoor viennent d'Annecy. Faut savoir Millet, Picture, Scott, Salomon. Enfin, toutes là-bas sont d'Annecy. Alors, les marques nautiques sont plutôt dans la côte basque. Mais donc, pour nous, c'était vraiment important de nous rapprocher de ce secteur. Et puis, j'ai souhaité m'engager. Il y a une industrie qui s'appelle la Outdoor Sports Valley, qui est une association qui permet de promouvoir, de rassembler tous ces secteurs du sport pour changer dans la bonne et avancer dans la bonne direction, notamment de la durabilité. Et donc, de me rapprocher d'eux, ça a été très important pour moi.
En termes d'intensité de travail, c'est quoi l'ambiance chez Barouders ?
C'est assez colossal, mais je pense que le fait d'avoir justement un projet à impact, il faut savoir qu'aujourd'hui, juste pour resituer, il y a 250 millions d'équipements qui sont produits chaque année en Europe, et il y a seulement 1% qui est actuellement dans le marché de la seconde main. Donc ça veut dire que 99% des ventes chaque année dans le monde du sport finissent à la poubelle, incinérées, ou à mourir dans un garage pour que dans 10 ans, quelqu'un vide le garage en disant du balai. Rien que ça, en fait, avec ce constat-là, ça porte, je pense, l'équipe qui du coup a envie de se dépasser parce que est portée par une cause, une mission qui les dépasse, en tout cas qui les motive au quotidien. Et du coup, bah, pour répondre à ta question, ça vient évidemment avec beaucoup d'énergie, de passion et donc d'heures de travail.
Du coup, c'est quoi la culture et les valeurs Barouders?
Les valeurs Barouders, il y en a quatre. C'est l'ambition, le partage, donc tout ce qui est bienveillance, la qualité, donc le respect du client et la qualité des produits, et le respect de la nature. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, celle qu'on met le plus en avant, c'est évidemment l'ambition, parce qu'on ne peut pas avoir d'impact si on ne met pas les moyens nécessaires pour y arriver. Et ça se ressent tout de suite à l'entretien. En fait, en général, nous, on cherche vraiment des gens qui veulent vivre une grande histoire, qui veulent faire partie de l'entreprise, avoir des parts dans une entreprise qui peut vraiment grandir fortement plus tard. C'est des gens qui sont tellement portés par ce qu'on fait qu'ils m'en parlent même. Ah oui, ce week-end, j'ai parlé avec ma famille de tel sujet, j'ai une idée, etc. C'est vraiment ce genre de mentalité qu'on cherche. Passion...
Est-ce qu'en 2022, c'est facile de trouver des gens aussi engagés?
La réponse est non, mais on trouve. Quand on cherche, on trouve. Et il suffit de chercher un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment important de trouver des gens qui n'ont pas, en tout cas au début d'une marketplace, surtout les premiers employés qui veulent avoir des parts dans l'entreprise, qui rejoignent l'entreprise au long terme. Je veux dire, là, les deux employés dont je t'ai parlé, le CTO et la personne dans la head of acquisition, tous les deux, ils manageaient une vingtaine de personnes. D'aller les voir et de dire, qu'est-ce que tu dirais de quitter ton job, ta bonne situation, tout quitter pour nous rejoindre, et tu verras, ça va être extraordinaire. Ça demande quand même déjà de leur part un certain sens entrepreneurial. Et je pense que d'ailleurs, le filtre se fait à l'entretien. Quand on leur dit est-ce que vous êtes prêts à tout quitter pour nous rejoindre, eh bien, il y a des personnes qui ont trop peur de perdre peut-être leur stabilité d'emploi ou prendre un risque. Automatiquement, en fait, on sait qu'ils n'auraient pas fité dans l'entreprise puisque tous les jours, on prend des risques.
Tu m'as beaucoup parlé d'impact, d'ambition depuis le début de notre conversation. Comment est-ce que tu mesures l'impact de Barouders ?
Alors déjà, je le mesure en termes de tonnes de gaspillage évité. Puis à chaque vente, il faut savoir que c'est moins 90% d'empreintes carbone économisées. Parce que juste pour refaire un petit peu le contexte écologique, on va vraiment du sourcing des matières premières jusqu'au recyclage. Ce n'est pas seulement l'utilisation du produit une fois qu'il a été vendu. C'est vraiment la boucle entière. Et au final, tu dois savoir ça encore mieux que moi, mais quand on regarde l'analyse du cycle de vie, on remarque que la durabilité, la durée de vie d'un produit, c'est ce qui impacte le plus l'empreinte carbone. C'est-à-dire que plutôt que de racheter, justement une tenue de sport qui est peut-être en matière éco-conçue et qui peut-être a été produit dans les meilleures conditions, au final, c'est encore plus écologique de garder l'équipement qu'on a déjà, s'il est en bon état, et de le prolonger le plus longtemps possible. Après, il faut aussi faire face à la réalité qui est que les gens aiment changer. La mode existe pour une raison. Les gens aiment parfois avoir un nouveau paddle, avoir une nouvelle tenue. Et ça, de leur offrir finalement, tout en prolongeant la durée de vie de ce même produit, permet de réduire l'empreinte carbone considérablement. Et donc, on mesure l'impact grâce à ça et aussi aux tonnes de déchets évités.
Tu es rentré dans le classement des Forbes. Ça a changé quelque chose? Que ça t'amène de la visibilité?
Je pense que déjà, ce n'est pas moi qui ai obtenu le prix, c'est Barouders. Je pense que c'est le travail de toute l'équipe qui est récompensée avec ce prix. Et je pense que oui, ça attire de la visibilité. Comme on l'en parlait tout à l'heure, recruter est très difficile. En tout cas, les meilleurs profils, recruter les meilleurs profils, c'est un vrai challenge. Et je pense que d'avoir ce type de récompense aide à attirer les meilleurs profils.
Pour toi, la visibilité, c'est aussi un enjeu de business parce que finalement, à chaque fois que tu fais une télé, un article de presse, un podcast, ça te permet potentiellement de sourcer des clients ou des fournisseurs de produits.
Ou des employés, des futurs stars dans l'entreprise.
Exactement, donc c'est une façon de faire connaître l'entreprise. Vous avez une stratégie RP particulière?
Oui, alors on n'a pas de stratégie en tant que telle étiquetée, mais c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité faire et développer. Aussi parce que, donc premièrement évidemment, parce que ça nous aide au niveau de la notoriété. On a eu de la chance de passer dans un JT national.
Ça représente quoi comme augmentation de trafic?
C'est quand même assez énorme. On a eu plusieurs milliers de visiteurs alors que le passage était de moins d'une minute. Et le site a juste explosé en moins d'une minute et ça a fait... je ne sais plus combien d'inscrits, on a peut-être dû gagner 3000 inscrits pendant ce passage. Donc c'est vraiment inscrit, ça veut dire que les gens vont sur le site et renseignent leur adresse email. Donc c'est quand même un temps passé sur le site qui est assez important. Et ensuite, d'avoir à répétition plusieurs passages dans la télé, dans la presse, ça aide petit à petit à faire entrer le mot Barouders dans la conscience des gens ou dans le réflexe pour justement vendre des équipements. Je pense qu'on a aussi un travail d'évangélisation à faire. Je disais tout à l'heure qu'on a de la chance d'avoir des cousins. Quand je dis cousins, c'est des gens qui font la même chose, mais dans d'autres industries, donc le luxe, l'électronique, la mode. Mais finalement, il n'y a personne aujourd'hui qui fait ça dans le sport. Donc, il y a un vrai travail d'évangélisation à faire. Et le plus on peut se faire entendre, le plus c'est important.
Je ressens vraiment l'ambition là, dans tes propos depuis le début. C'est quoi ta vision à 10 ans de Barouders?
C'est vraiment, pourquoi est-ce que ça revient souvent? C'est qu'il faut avoir de l'ambition pour réaliser la grandeur de ses rêves, entre guillemets. Et notre ambition, c'est de devenir le leader mondial du sport de seconde main. Donc, quand on prend un pas de recul, on réalise que le marché américain fait 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le marché européen fait également 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qu'aujourd'hui, comme je le disais, il n'y a que 1% de ces équipements qui sont dans le marché de l'économie circulaire. Quand je parle à des marques outdoor, quand je parle à n'importe quel acteur, tout le monde souhaite s'y mettre. Tout le monde veut avoir un rôle à jouer parce qu'ils savent que quand on regarde ce qui se passe en Europe de l'Est, avec les guerres, avec la hausse des prix de l'énergie, les matières premières vont devenir de plus en plus compliquées. De produire en Chine, ça va devenir de plus en plus compliqué quand on souhaite vendre en Europe. Quand on mise sur l'écologie, la science nous prouve que ça va aller dans la bonne direction. Et c'est exactement ce qui se passe. La seconde main a de plus en plus d'ampleur. Et donc, forcément, c'est stimulant. On se dit, mais il y a quelque chose d'énorme à faire.
C'est qui vos concurrents?
Alors, des concurrents, moi, je pense qu'il y en a deux actuellement. Ça reste Vinted et Le Bon Coin. C'est deux concurrents qui attirent, je pense, à eux deux, 50 millions de visiteurs par mois. C'est encore des réflexes. Il y a aussi Facebook, avec des groupes Facebook qui sont assez présents, assez actifs. Et donc, pour nous, c'est vraiment important de faire connaître, en fait, la richesse de notre offre qui se distingue nettement de ce qui existe.
Aux US, il n'y a pas de concurrents?
Non, justement. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que quand on regarde Back Market, par exemple, ça fait plaisir de voir une marque qui a été créée en France et qui, justement, s'ouvre aux États-Unis. États-Unis parce que ça n'existe pas là-bas. Et il y a eu quelques tentatives de copycat aux États-Unis de Back Market qui ont un peu échoué, etc. parce que Back Market est arrivé assez rapidement. L'Europe a eu une avance sur les États-Unis sur tout ce qui concerne l'écologie, ou en tout cas la seconde main. Ce n'est pas un réflexe aujourd'hui omniprésent aux États-Unis. Donc, en fait, ils ne se sont pas encore beaucoup penchés sur le sujet, même si ça arrive. Et c'est aussi pour ça qu'on veut aller rapidement.
Comment est-ce qu'on maintient une vie perso, pro, équilibré quand on est marié avec son cofondateur?
Déjà, c'est d'arriver à couper. Le week-end, c'est vraiment important. Ensuite, on a quand même fait pas mal de sacrifices. Je pense que je sors beaucoup moins qu'avant. J'ai quand même raté quand même quelques anniversaires et surtout qu'on a deux bureaux. On a un bureau à Annecy, un bureau à Paris, ce qui incite à beaucoup de déplacements. Donc forcément, ça vient avec des sacrifices. Par contre, justement, le fait d'avoir lancé ça en couple, ça m'aide à avoir justement... de ne pas perdre de vue, en tout cas, la vie de couple, puisqu'on est ensemble dans le même bateau, on regarde dans la même direction et on est passionnés par les mêmes sujets. Donc, heureusement, en fait, ça coïncide vachement bien.
24 heures dans la vie d'Edwidge, ça donne quoi ?
Pas mal de choses. Ça veut dire...
Tu commences à quelle heure ?
Alors, bon, si tu veux vraiment le détail, j'arrive à 8 heures. En général, je passe une heure à vraiment structurer tout ce que je dois faire. Ce qui est important, parce qu'on a tellement à faire chaque jour que si on n'est pas ultra millimétré, on n'y arrive pas. Je cale dans mon agenda toutes les réunions importantes. J'essaye de m'allouer du temps à la fois pour les choses extérieures, donc les rendez-vous avec les marques, les rendez-vous avec les marchands professionnels. Parce que pour l'instant, j'ai encore la casquette commerciale. Je m'alloue toujours une plage de temps environ de 2 heures pour la créativité, donc tout ce qui est marketing, parce que si on ne s'oblige pas à avoir de la créativité, juste la journée nous envahit. Et ensuite, je passe le plus clair de mon temps maintenant à manager. C'est important que les gens soient alignés. C'est un sorte de rôle de chef d'orchestre, faire en sorte que tout le monde ait l'information. Et je pense que mon expérience en tant que directrice marketing chez Clarins m'a beaucoup aidée à savoir, en fait, ce que j'ai réalisé une chose, c'est que si les gens ne communiquent pas ensemble, souvent le résultat n'est pas assez bon parce qu'il y a beaucoup d'informations non dites. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de s'assurer que les gens ont bien compris ce qu'ils avaient à faire, ont bien toutes les cartes en main, leur donner le plus d'autonomie possible et vraiment être là en soutien pour les aider. Non, jamais de les micromanager, mais plutôt de leur donner ce dont ils ont besoin pour avancer de la meilleure des manières possibles.
Alors, je te sens très optimiste, très emballé, etc. Mais est-ce que tu trouves que finalement, les rapports du GIEC qui succèdent, le réchauffement climatique, on va avoir cette semaine une canicule qui arrive en France. Alors, il y a une canicule qui au Pakistan et en Inde. Comment est-ce qu'on fait pour être optimiste face à ces avalanches de mauvaises nouvelles et de mauvais signaux?
Déjà, d'avoir sauté, franchi le pas, je serais beaucoup plus triste si je n'avais pas franchi le pas de m'engager pleinement dans l'impact. Au final, je vois des gens autour de moi qui, bien sûr, font des bonnes actions. Ils sont devenus végétariens, ils ne prennent plus l'avion. C'est des énormes sacrifices. Et pourtant, leur impact reste, on va dire, moindre. Par exemple, s'ils font un job qui, pour le coup, n'a pas un bon impact sur l'environnement, malheureusement, ça veut dire que plus de 60% de leur temps, il est alloué à contribuer vers quelque chose qui n'a pas un bon impact ou qui ne va pas dans la bonne direction. Donc déjà, la première étape, c'est s'engager pleinement. Ça libère un poids qui est énorme. C'est ce qui, je pense, me porte tous les jours et d'où vient mon optimisme. Et ensuite, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses quand on parle d'écologie. Je ne suis absolument pas dans l'écologie punitive. Je suis même officiellement contre parce que je pense que ça mène les uns contre les autres et ça ne fait pas avancer le problème. Il faut au contraire beaucoup de passion, de bienveillance et d'optimisme pour avancer dans la bonne direction. Et enfin, je pense que je ne suis pas naïve. Je sais que ce n'est pas grâce au sport de seconde main que la planète va être sauvée. Mais par contre, c'est une étape dans la bonne direction et peut-être que plus tard, j'aurai un peu plus de temps pour m'engager, j'en sais rien moi, dans un mouvement pas forcément politique, mais une association ou autre et essayer d'avoir autant d'impact que je peux. Et je pense que ce qui est sûr, c'est que le sujet va se résoudre au niveau politique. Évidemment, quand on prend un peu de recul, on réalise qu'on est bien trop petit par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais je pense que des initiatives comme la tienne ou comme toutes ces entreprises dans l'économie circulaire montrent aussi l'exemple et peut-être réveillent, mettent la puce à l'oreille aux politiciens de se dire, mais finalement, regardez tout ce qui se passe. C'est peut-être qu'au final, les gens veulent vraiment voir un changement.
Merci beaucoup, Edwige. Moi, ce que je retiens de l'entretien, c'est ton énorme ambition.
Ah bon?
Et ça fait plaisir parce que je pense qu'on ne peut pas avoir d'impact si on n'est pas très ambitieux. Donc, bravo. Longue vie à Barouders. Et puis, je vais aller mâcher mon paddle.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci de m'avoir reçu et d'avoir pris le temps de m'écouter.
Salut. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.